Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices. Nous revoilà avec le grand retour de Guy. Bonjour, bonjour Guy, tu nous as manqué, tu sais.
Oui, oui.
L'impétueux, parfois inspecteur des rifs, parfois simple Florent. Bonjour Florent.
Bonjour.
Le trop rare Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour tout le monde.
Et le formidable Didier. Bonjour Didier.
Ah, merci. Surtout que j'ai rien à vendre, alors bon, on va voir.
Ça tombe bien. Alors on a des nouvelles des médiathèques dans lesquelles nos lecteurs et lectrices pourront bientôt aller.
Pour l'heure, nous avons 5-6 médiathèques et qui ont répondu positivement quant à leur participation. Nous avons la Mesa de Millau, la médiathèque de la communauté des communes Larzac-Vallée, la médiathèque de Sévrac d'Aveyron, qui n'étaient pas venus l'année dernière car ils étaient en restructuration de travaux. La bibliothèque de Saint-Mosély, la bibliothèque du Viala du Tarn et la bibliothèque de Rivière-sur-Tarn. Pour l'heure, nous avons ces médiathèques, bibliothèques qui vont participer. Je crois que c'est maintenant que tu nous donnes l'interview de notre ami.
Je ne sais pas, tu n'as rien d'autre à dire.
Moi, j'ai rien d'autre à dire sur les médiathèques.
Tu n'as rien d'autre à dire.
Puisque tu as interrogé notre ami Fred de la médiathèque.
Oui,
de
Fred de la Mesa, parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi une bibliothèque ou une médiathèque participe, nous aide en tout cas à organiser ce prix Robin Cook, et puis quand les gens pourront aller enfin lire les livres qu'on recitera plus tard.
Nous sommes au milieu des rayonnages dans une véritable forêt de livres, de BD, de CD, et nous rencontrons Fred à la Mesa médiathèque du Sud-Aveyron, à Millau. Fred, bonjour.
Bonjour.
La Mesa, en quelques chiffres.
Alors, la Mesa a ouvert en 2017. C'est une médiathèque qui fait 2000 mètres carrés. Et au niveau du fond, il y a 40 000 documentaires adultes, 20 000 documentaires jeunesse, 13 000 CD et environ 5 000 DVD.
Tu es responsable du fonds Polar ? C'est ce qui nous intéresse forcément à Polar et Vin.
Je sais.
Alors, ce fonds Polar.
Alors, le fonds Polar est constitué de, je vais être plus précis, 1387 romans policiers. Il faut savoir que dans les romans policiers, il y a aussi des sous-genres. Il y a aussi le roman d'espionnage, le thriller, le roman policier historique, le roman policier ésotérique. Et ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle le cosy roman, c'est-à-dire le roman policier un peu inspiré d'Agatha Christie, avec du mystère, mais sans violence.
Oui, il a toujours marché celui-là, je crois.
Mais il y a quand même, depuis 3-4 ans, on sent un retour du cosy roman. Oui.
Tu suis un petit peu donc là, tu m'as parlé des tendances. Il y a un auteur particulier qui perce dans le rayon ou dans les emprunts.
Cette année, c'est un auteur italien qui a été le plus emprunté. C'est Pulici Pier Giorgio, qui a écrit trois romans chez Gallemeister. Voilà, c'est le roman qui a séduit le plus les lecteurs de Polar à la Mesa.
Et tu l'as lu, toi ? Tu connais ? Parce que moi, ça ne me parle pas du tout.
Alors, c'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Vito Strega, qui est de suite attachant. Voilà, un personnage un peu bourru, qui est sensible. C'est-à-dire, quand c'est une affaire qui a trait à un enfant, on sent vraiment la sensibilité de ce flic. Voilà. Dans le polar, je trouve que s'attacher au personnage principal, qu'il soit flic ou qu'il soit détective privé, qu'on connaisse un peu sa vie à côté, je trouve que c'est une part importante dans le roman policier et dans le succès que le roman policier a, puisque le roman policier est beaucoup emprunté à la médiathèque de Millau, On a des usagers qui sont fidèles et qui viennent voir de temps en temps les nouveautés polar.
Et sur les rayons, je vois qu'il y a des livres qui sont mis en avant. Il y a une raison,
En priorité, ce sont les nouveautés, mais comme les nouveautés sortent très rapidement, où on met des coups de cœur, c'est-à-dire des livres qu'on apprécie, ou alors on met des livres, des classiques, ou des livres qui nous paraissent intéressants à faire connaître.
Ben alors Fred, le responsable du fonds polar, lui, ses choix, c'est quoi ?
Alors dans mes classiques à moi, je citerai en premier, c'est mon chouchou, c'est un auteur suédois qui s'appelle Henrik Mankell. Voilà, qui était plutôt dans les années 90 où il a eu du succès, il est décédé. Mais voilà, chacun de ses romans, à travers un meurtre ou des meurtres, il s'en sert pour en fait décrire un problème de société. Ça se passe en Suède, mais en fait on s'aperçoit au fil des romans que énormément de pays européens ont les mêmes problèmes.
Et il y en a d'autres, non ?
Après, j'ai commencé à lire les polars adultes. Si, j'avais 25 ans. Et le premier que j'ai lu, c'est James Ellroy. Il y a pire. voilà. Et moi, mes deux romans préférés de James Ellroy, il y a le Dahlia Noir et le Grand Nulle Part.
Ouais.
Voilà. C'est des livres, je me suis toujours posé la question comment un écrivain pouvait arriver à tenir une histoire aussi dense sur 500, 600 pages et que le lecteur ne s'y perde pas. Quoi. Parce qu'on ne se perd jamais dans ces romans, malgré le nombre de personnages, les intrigues un peu diverses. Et voilà. C'est vraiment une lecture assez impressionnante.
Bon, la Mesa déjà est une partenaire importante de Polar Veil Company à travers un certain nombre d'événements. Bon, l'année dernière, avec la reprise des activités, ça a été, l'accueil de Pascal Dessin, de Laurence Bieberfeld,
Rachel
Korenblit, voilà. Il y a presque, je dirais, c'est plus que du partenariat, c'est presque de l'amitié entre les deux institutions. Avec votre participation, enfin, celle de la Mesa, au festival Polar Vin.
Oui, parce qu'en fait, dès le début de la création du festival Polar Vin et compagnie, la Mesa a été partenaire. Et pour un établissement comme ça, recevoir des auteurs aussi prestigieux que Patrick Rénal, Jean-Bernard Pouy, Sandrine Collette, c'est une chance incroyable qu'on a eue pendant 2 ans de recevoir autant d'auteurs. On a reçu aussi Victor Delarbol, Olivier Truc. Pour les amateurs de polar, je pense que ces noms, ça leur parle.
Et alors, donc, la Mesa participe à l'attribution du prix Robin Cook en mettant à disposition les romans sélectionnés. Alors concrètement, comment ça se passe ?
Voilà, donc nous on a acheté 2 exemplaires de chaque roman. Et ils seront mis en place à partir de mardi. Voilà, donc les usagers de la médiathèque pourront venir à partir de mardi, pourront commencer à lire les livres sélectionnés pour le prix Robin Cook 2025.
Donc l'an dernier, c'était, je crois, une vingtaine de votants. Alors, plus de personnes qui avaient emprunté les livres, mais bon, voilà.
Oui.
Pas forcément qu'il y ait eu le temps de lire.
On a eu une vingtaine de personnes qui ont voté pour le prix. Et en gros, on a eu une trentaine de personnes qui ont participé, qui ont suivi un petit peu le déroulement du prix en 2024.
Alors après, pour voter, comment ça va se passer ?
Alors, on mettra une urne à partir du mois de mai. Et les gens pourront venir à la médiathèque, au rayon polar, pour voter pour leur ouvrage favori.
D'accord. Et alors, Quel est l'intérêt pour la Mesa de participer au prix Robin Cook ?
Alors, pour moi, personnellement, ça me permet de découvrir des auteurs que je n'aurais pas lus forcément. Pour les lecteurs, ça permet aussi d'échanger avec les lecteurs, de connaître un peu plus précisément leur goût, et aussi ça permet d'orienter mes choix de polar. Parce qu'il y a une production tellement importante dans les romans policiers que le choix est parfois difficile.
Mais écoute, merci Fred de nous avoir accueillis, j'allais dire dans ton antre, mais ce n'est pas un antre du tout,
quand même,
c'est très ouvert, même si j'ai parlé de forêt au début, c'est une forêt très lumineuse. Merci en tout cas de nous avoir reçus au milieu de tous tes romans.
Merci à vous.
Et puis, merci à la MESA et longue vie au partenariat MESA, Médiathèque Sud-Aveyron et Polar Vin et Compagnie.
On y compte bien.
Merci Fred.
Merci à vous.
Voilà, donc une date à retenir. Ce mardi, les livres qui sont candidats, enfin les auteurs et leurs livres qui sont candidats au prix Robin Cook 2025 seront disponibles à la Mesa de Millau. On rappelle les titres et les auteurs, Guy ?
Oui, alors pour cette sélection Robin Cook 2025, nous avons « De neige et de vent » de Sébastien Vidal aux éditions « Le mot et le reste ». La piste du vieil homme de Antonin Varenne aux éditions Gallimard. Sève de Olivier Gallien aux éditions Robert Laffont. La disparition d'Hervé Snout d'Olivier Bordassard chez De Noël. Et La théorie des ondes de Pascal Chouffaut aux éditions du Rouergue.
Et cette année, l'association va mieux s'occuper des médiathèques.
Oui, on va s'occuper des médiathèques vachement mieux. Hein, donc, alors, premièrement, faut se dépêcher, hein, les médiathèques, là, faut nous signaler si vous voulez participer ou si vous êtes des lecteurs et que vous voulez votre médiathèque participe, qui nous contacte rapidement, capsudaveyron12@gmail.com, capsudaveyron12, tout attaché, comme on dit, @gmail.com. Donc, motivez vos médiathèques pour qu'elles participent. Ce que va faire l'association Cap Sud Aveyron cette année, on va se déplacer dans toutes les médiathèques participantes pour pouvoir d'abord présenter l'association, présenter aussi la sélection de livres en faisant un petit pitch sur les auteurs et sur les livres sélectionnés. On vous parlera évidemment de l'organisation du vote. Là, si vous avez été attentif à l'interview précédente, vous savez qu'on amènera des urnes dans les médiathèques, hein, pour que tout ça se passe correctement et le mieux possible, voilà. Et puis surtout, on proposera aux médiathèques participantes un événement d'ici la remise du prix Robin Cook. Donc ce sera peut-être une signature avec un auteur connu, peut-être une discussion avec un auteur, un éditeur, peut-être un atelier d'écriture. Ce sera un petit peu le choix des médiathèques et le choix de l'association. On fera tout ça en très bonne entente. Donc voilà, on n'avait plus qu'à aller emprunter les bouquins, les acheter, faites ce que vous voulez, lisez-les et votez.
Super tout ça. Bon, maintenant, Didier et Lionel nous amènent où ?
Rien à vendre, j'ai rien à vendre. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quelque chose à proposer. Un rendez-vous peut-être, si vous êtes intéressé. Alors le polar, on le sait, a souvent donné lieu à de très grands films. Mais à la réflexion, on voit aussi qu'il y a beaucoup de séries ont su utiliser le genre, et même des séries de très très bonne qualité. Et donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, un rendez-vous avec certaines des séries qui nous ont le plus plu.
Et on va commencer par la meilleure, The Wire, en français sur écoute, de David Simon. En fait, ça, c'est une série qui se passe à Baltimore, aux États-Unis, évidemment, dans le Maryland. Et en fait, c'est trois scénaristes originaires de cette ville qui se sont associés pour créer une série policière et sociale considérée comme une des meilleures de tous les temps. Ces trois gars sont David Simon, un journaliste d'investigation, Ed Burns, qui a été flic à la criminelle, comme dans la série, et puis professeur dans les écoles publiques comme dans la série. Et George Pelecanos, professeur à l'école publique, écrivain, issu des quartiers décrits dans cette série. Donc c'est quasiment un documentaire, enfin une série documentaire autant qu'une série policière, mais en fait qui est une série aussi très attachante par le fait qu'on suive des personnages de tous les milieux, de toutes les conditions, des flics, des dealers, des consommateurs de drogue, ainsi de suite.
Oui, peut-être que, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais ils ont fait d'autres séries, non, Paul Simon ?
Oui, alors Paul Simon, il est connu aussi pour plein d'autres séries. En fait, Et il a écrit, enfin non, c'est Ed Burns qui a écrit un bouquin The Crown et Paul Simon un livre Baltimore qui ont donné lieu à des séries. Mais sinon, il y a The Corner, donc il y a eu The Wire, Génération Kill qui parle de la guerre d'Irak, Tremé qui parle de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. Show Me a Hero, c'est sur les magouilles immobilières. The Deuce, sur la mafia du porno à New York dans les années 70. Et le dernier, c'est We Own the City, sur les flics pourris et les pratiques policières un peu bizarres.
Donc The Wire, c'est pas un coup de chance, quoi.
Hein, ah non, non, c'est toutes d'excellentes séries.
C'est leur première, je pense. C'est leur première et ça a donné lieu à d'autres, à beaucoup d'autres. Hein, même s'ils n'ont pas rencontré un succès commercial, on peut dire, entre guillemets.
Non, ils n'ont pas
rencontré. Ils ont marqué.
Ils n'ont pas rencontré, notamment pour The Wire, il y a une des raisons, c'est qu'il y a énormément de Noirs américains dans la série et ça n'a pas plu à tout le monde, visiblement. Pardon.
Alors, tu disais que c'était la meilleure ou l'une des meilleures séries. Ça s'est fait après coup, quoi. Et c'est vrai que, rétrospectivement, toute la profession a trouvé que cette série était fantastique. C'est vrai que c'est un mélange entre des histoires personnelles qui sont récurrentes pendant 5 saisons et puis un aspect quasi documentaire, puisqu'à chaque saison, on vit dans un milieu particulier. Un milieu qui est mis sous écoute, hein, The Wire, traduit en français par surécoute, parce que la plupart du temps, on voit les flics qui sont en train d'écouter, comme nous, là, avec des casques, et vraiment aussi intéressés par ce qui se dit qu'à l'instant. Donc, 5 thèmes abordés. Hein, le premier, c'est le plus simple, parce que là, il s'agit de suivre des gangs de dealers. Donc, c'est le plus conventionnel. Mais on voit qu'au fur et à mesure, ils se sont émancipés et ils ont élargi les thématiques. Toujours avec des histoires de gangs, bon, et d'écoute, mais à chaque fois dans un milieu très, très différent. Le premier, bon, c'était dans un quartier de dealers. Le deuxième, c'est dans le port de Baltimore. Hein, manifestement, le port de Baltimore, c'est un élément extrêmement important pour la ville. Hein. C'est le cœur qui bat. Le troisième, c'est la lutte des pouvoirs politiques autour des aménagements, justement, des ports. Un port qui est en déshérence, comme la plupart des ports américains de l'époque. Le quatrième, certainement le plus innovant, c'est dans le milieu scolaire, puisqu'il y en a un des flics qui décide de devenir, si je m'en rappelle bien, enseignant. Bon, et puis pour terminer, le thème qui plus à la mode et qui se développait vraisemblablement à l'époque, c'est ce qui se passe dans les médias. Donc c'est vraiment une série, enfin, que moi j'ai trouvé extrêmement addictive. On s'attache beaucoup à ces personnages, on les voit changer, on les voit vivre. Bon, c'est moi je ne saurais que vous conseiller ce.
Oui, on a oublié de préciser que la série date de 2002, donc elle a plus de 20 ans, ouais. Enfin 2004 en France.
Alors justement, comment on peut, c'est peut-être ce que tu voulais nous dire, comment on peut la retrouver cette série?
C'est-à-dire que oui, j'étais un peu inquiet en préparant cette émission, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on l'a trouvée sur plein de plateformes, ou alors en VOD, quoi. Mais bon, il y a d'autres moyens, mais on ne peut pas les dire ici.
Je ne sais pas si à la MESA, à mon avis, on pourrait demander à la MESA, en tout cas, de se la
procurer. Peut-être que non, effectivement.
Hein. Je pense que c'est le moment. Alors, il y a une autre particularité, je trouve, cette série. C'est la fidélité à un morceau qui a été composé par Tom Waits et qui sert de générique à chaque fois, avec à chaque fois un interprète différent. Et là, aujourd'hui, je vous ai sélectionné la version de Steve Earle d'un morceau qui s'appelle « Way Down in the Hole ». Ce qui veut dire, je crois, c'est qu'on va s'enfoncer. On va s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. When you walk through the garden, gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep a devil way down in a hole. He's got the fire and the fury in the hole, in the hole, at his command, in the hole, in the hole. Well, you don't have to worry, in the hole, in the hole, if you hurt. Devil in the hole, in the hole.
shield you with the wings. I keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep a devil.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit, que je sache.
Les plus anciens se souviennent des caves de la Capelle. Jean Hervé a su valoriser ces magnifiques voûtes du XIIIe siècle. Et depuis mars 2024, c'est Lionel et Mathieu qui y travaillent sous la marque Intercave. Je suis avec Lionel. Bonjour Lionel.
Salut William, tu vas bien ?
Ben oui, je vais bien quand je suis bien entouré comme ça avec plein de bouteilles de vin. La semaine dernière, c'était le troisième jeudi du mois novembre. Et le troisième jeudi du mois de novembre est une date importante pour les cavistes. Pourquoi ?
Le Beaujolais nouveau arrive voilà, le troisième jeudi du mois de novembre. Là, c'était le jeudi 21. Donc on a fait le Beaujolais pour un caviste. Voilà, c'est un événement important.
Alors, important, Beaujolais Nouveau, il en prend un peu plein la figure, hein, quand on voit toutes les blagues qu'il y a sur ce Beaujolais Nouveau, qu'il est juste bon pour nettoyer les vitres ou les toilettes, même certains. Alors, cette année, avait-il vraiment un goût de banane ?
Non, cette année, aucune banane n'a été blessée. Voilà, non, c'était un. En tout cas, les Beaujolais Nouveaux que j'ai eu à la cave, c'était des vins sur le fruit, la fraîcheur. Voilà, framboise, on peut dire des petits fruits rouges, quoi.
Château de Corcelles, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'était le Beaujolais Château de Corcelles, c'est le Beaujolais qu'on a avec Intercave, puisque c'est un magnifique château qui appartient à la famille Richard, qui est Intercave.
D'accord.
Des très bons vins de Beaujolais, voilà.
Le Beaujolais, c'est quand même, enfin je regarde un petit peu les chiffres, 9 millions de bouteilles vendues en France, 5 millions sur l'export. Est-ce que c'est qu'une opération marketing ou c'est quand même, ça on va au-delà de l'opération ouais. Juste marketing ?
Bah écoute, ouais, ça a pris énormément d'ampleur, je crois que c'est dans les années 80, et surtout à l'étranger, je crois que le plus de bouteilles vendues c'est en Asie, hein, Japon et Chine. En fait, je crois que c'est même au Japon, où il y a vraiment une folie là-dessus. Alors, au début, c'est parti, le Beaujolais, je crois que c'est années 50, il y a eu c'est parti un peu d'une révolte des vignerons, parce qu'il y a eu un arrêté qui leur interdisait de vendre leur vin avant la fin de l'année. Ils ont protesté, ils ont eu le droit, du coup, de vendre leur vin, si c'était marqué primeur dessus ou vin nouveau. Donc, c'est parti de là, en fait. Les gars, ils ont trouvé une méthode pour vendre leur vin nouveau avant la date prévue, quoi.
Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas tous les crus du Beaujolais, il n'y en avait que certains, non, qui pouvaient faire du Beaujolais nouveau.
Beaujolais et Beaujolais Village. Village, je crois que Village, c'est entre 200 et 500 mètres, la différence hein, voilà, ouais. D'altitude.
J'ai goûté le château de Courcelles avec un aligot magret et ça passait bien. Et effectivement, je n'ai pas senti la banane. Tu as ouais. D'autres vins primeurs
ouais.
Ici ?
Ouais, tout à fait. Alors ici, ce qui marche beaucoup, c'est le Gaillac primeur. Voilà, les gens, il y a une réelle demande parce que bah, déjà on n'est pas loin. Puis parce que c'est bon, hein, le Gaillac primeur, c'est du Gamay aussi. Donc le cépage du Beaujolais, c'est 100% Gamay, hein, ça c'est obligatoire. Hein. Et le Gaillac primeur aussi, par exemple, moi j'avais un Gaillac primeur 100% Gamay, vraiment léger, fruité, qui est fait en macération carbonique aussi, qui est la façon de. Il faut macérer les grappes en entier en fait, il n'y a pas les raflages, tout ça. Ce qui concentre les arômes sur le fruit, voilà. Donc, il y avait aussi, donc, à partir du 21, troisième jeudi de novembre, le muscat de Noël, donc le muscat de Rivesaltes, qui est sorti. Il y a le Côte-du-Rhône primeur aussi, qui est extra. Voilà, il y a plusieurs vins et d'autres, hein, je ne les ai pas tous en tête. Voilà ce que moi j'avais en boutique, ouais, voilà.
Bah écoute, merci Lionel. Donc, Beaujolais nouveau, à consommer évidemment avec modération.
Et ouais, puis, avec plaisir. Mais juste pour ajouter, alors c'est sûr que c'est un gros truc marketing, c'est devenu un gros truc marketing. Mais moi, en tant qu'aviste, quand même, je trouve il y a ce côté, voilà, c'est l'occasion de boire un coup avec les copains, un plateau de charcut, donc il y a cette convivialité. Et c'est dommage que ça se perd. Et dans les bars à Millau, il n'y avait pas beaucoup de soirées Beaujolais. Ouais. Les gens sont venus m'acheter des bouteilles à la cave, du coup, faire ça chez eux. Merci à toi, en tout cas.
Merci. Merci à toi. Allez, ciao. Polar Vin et Compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs.
Merci William.
Merci William.
Merci William.
Merci William.
Et j'espère qu'il y aura des dames la prochaine fois.
Ouais, oui.
C'est sûr.